Vous êtes sur RTL.
Voir Toyota.fr.
18h49 sur RTL, c'est parti pour le kiosque, Thomas.
Le kiosque d'RTL soir avec Catherine Boulet qui s'installe tranquillement dans le studio, Christian Ménanton qui est avec nous pour nous parler d'économie et Julien Molcou qui va nous emmener à Marseille au Mucem dans quelques minutes. Bonsoir à tous les trois.
Salut patron.
Bonsoir.
Ce soir Catherine, vous nous emmenez en Grèce. Les Grecs seraient-ils en voie de disparition? Le pays a en tout cas mis en place des mesures incitatives pour booster sa natalité.
Est-ce que vous feriez un enfant pour 2000 euros si on vous proposait cet argent pour la naissance d'un enfant?
C'est-à-dire que si on fait un enfant, l'État me donne 2000 euros.
Exactement.
Mais je peux garder l'enfant?
Vous gardez l'enfant.
Et c'est pas rétroactif, hein, je vous préviens.
Et ça fonctionne depuis le 1er janvier 2020 en Grèce. Je sens que vous êtes partante, vous êtes tentée, Julia.
Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et quoi que 2000 euros, c'est pas non plus énorme pour
par rapport à ce que ça coûte derrière, bonne chance. Ouais.
Hein. Ouais. Je dirais au gouvernement grec qu'il peut compter sur vous. En tout cas, il a des
raisons. On va appeler Nikos, on va filmer le numéro de Julia.
Oui, c'est ça le truc.
Le gouvernement grec, il a des raisons de s'alarmer, figurez-vous, parce que les Grecs aujourd'hui, ils sont combien? Ils sont 11 millions, c'est-à-dire 6 fois moins que les Français. Plus inquiétant encore, leur taux de fertilité est en chute libre depuis 1975. Ce qui veut dire qu'à ce rythme, en 2050, eh bien, plus d'un tiers de la population grecque aura plus de 65 ans, avec un système de santé et de retraite en souffrance. C'est pas de l'orgueil national, a déclaré le ministre du Travail et des Affaires Sociales, c'est de la préservation. Situation critique donc, et raison pour laquelle cette mesure a été ouverte à tous, grecs et non-grecs, qu'ils soient résidents de l'Union européenne ou pas.
Mais c'est-à-dire, on peut venir de n'importe quel pays du monde, s'installer en Grèce, faire un enfant et avoir 2000 euros.
Vous pouvez être résident de l'Union européenne, vous pouvez être non-résident de l'Union européenne. Donc, du moment que vous vous installez en Grèce, vous pouvez
recevoir cette déclaration. Qu'est-ce qu'ils sont vénaux les deux? Alors, ça peut fonctionner ou pas?
Je sens qu'ils sont vraiment tentés et qu'ils vont repeupler la Grèce.
Mais moi, les Grecs, j'ai rien contre. Mais
les successeurs de Vassis, ça vous plairait peut-être plus.
Et vous avez leur numéro? Je prends.
Bon, ça peut fonctionner ou pas, sérieusement?
Ça peut fonctionner, on a des doutes, parce que vous avez un taux de chômage à 17%. Vous avez un salaire moyen là-bas à 709 euros, ce qui est très faible. Donc, j'ai posé la question à Maria Danaxa. Elle est correspondante en France pour les médias grecs, et notamment la télévision et la radio à Athènes. Elle en doute fortement. Écoutez.
2000 euros, c'est rien. Un enfant, il a vraiment des besoins. Et il y a des familles dans les besoins actuellement, parce que ils ne savent pas si, à la fin du mois, ils vont être payés. Qui actuellement, les Grecs, ils évitent de faire des enfants. Oui, on voit des disparitions, malheureusement.
C'est pas encourageant. Hein.
C'est pas encourageant. Il y a d'autres pays qui sont dans la même situation?
Absolument. La Chypre. La Pologne, l'Italie, c'est pas brillant non plus.
L'Espagne.
Vous avez entre 1,3 et 1,32 enfants par femme, donc ça ne permet pas à la population de
se renouveler.
Et de se renouveler.
On va continuer à parler argent avec vous, Christian Ménanteau. Les soldes en magasin, ça n'a pas été un très bon millésime.
Il n'y avait pas d'enfants à vendre, hein,
non.
Sur ce coup-là.
Donc vous vous êtes dit, tiens, on va aller voir comment ça se passe du côté du commerce en ligne. Est-ce que le commerce en ligne en a tiré profit de cette période?
Écoutez, un petit peu quand même, hein, parce que les ventes par ce canal commercial affichent une croissance qui probablement ferait saliver les commerçants traditionnels, plus 11% l'an dernier. Hier, on vous donnait ici les chiffres, hein, c'est plus 0,5% pour le reste. Donc, du coup, la barre symbolique des 100 milliards de chiffre d'affaires via ce canal a été franchie.
En France seulement?
En France seulement, bien sûr. Hein. Maintenant, sur le fond, il n'y a pas quand même de quoi s'esbobir, sauf que la progression, elle est spectaculaire, puisque les achats de biens et de services en ligne ont été multipliés par 4 en France durant ces 10 dernières années.
Est-ce que ça veut dire qu'on achète beaucoup plus par Internet maintenant?
Oui, bien sûr, mais in fine, l'e-commerce est au total simplement 10% de l'ensemble du commerce en France. Nous sommes très loin de pays comme la Grande-Bretagne où la part des achats via son ordi ou son téléphone est déjà 2 fois plus importante pour certains experts. Ça tient surtout à la prudence des Français. On veut voir, on veut toucher ce qu'on va acheter. Pour d'autres, c'est un simple retard qu'on serait en train de combler. C'est d'ailleurs la thèse de la Fédération du e-commerce qui souligne une banalisation croissante du shopping numérique. Mais ça, c'est Julia qui fait du shopping numérique.
Oui, mais alors attends, est-ce que ça veut dire que Amazon va définitivement tout aspirer comme on nous le promet depuis longtemps?
Écoutez, le village gaulois, non, je crois pas, parce que le village gaulois tient bon, les racines sont là, les impératifs écologiques vont certainement renforcer cette résistance. Les purs spécialistes de la vente sur Internet, donc comme Amazon que vous venez d'évoquer, mais aussi Cdiscount ou Le Bon Coin, ne pèsent que 5% de l'ensemble de tous les produits vendus dans l'Hexagone. En fait, la France se distingue toujours, elle a une activité forte, mais surtout dans la vente de service en ligne, les billets de train, les billets d'avion, les nuits d'hôtel, etc., etc. Et aussi une forte présence de sites des grandes enseignes traditionnelles. C'est la Fnac, c'est Darty, hein, c'est Leclerc. Et ça, c'est plutôt rassurant parce que quand vous avez un chiffre d'affaires équivalent entre le e-commerce et un commerce traditionnel, eh ben, il y a 3 à 5 fois plus d'emplois dans le commerce traditionnel.
À l'affiche du kiosque, on va aussi ce soir au MUCEM à Marseille pour visiter une exposition avec vous, Julia.
Oui, voyage qui n'a rien à voir avec... rien à voir avec Desireless. C'est le titre de cette très belle exposition qui se tient donc au MUCEM, vous l'avez dit, et qui part sur les traces de l'une des plus grandes sources d'inspiration des artistes, à savoir le désir d'évasion, la fuite et parfois même l'errance ou l'exil. Alors, l'exposition commence dès le XVIe siècle, puisque c'est à cette époque-là que les Français, mais aussi les Espagnols et les Nordiques sont partis en Italie, ils cherchaient la grâce, l'inspiration était là-bas. Le voyage nous entraîne ensuite à la fin du 19e siècle. À ce moment-là, c'est une toute autre démarche. Les peintres, par exemple, cherchent des terres vierges de toute industrialisation. C'est le cas de Gauguin qui va partir en Polynésie. Et on sait à quel point il en tombera amoureux, il en sera fasciné. Et puis au 20e siècle, là, les artistes racontent un tout autre voyage. C'est le mirage de l'Orient qui va pousser Matisse, par exemple, à traverser la Méditerranée. Ce sont aussi des objets qu'on va rapporter d'Afrique, d'abord pour les regarder comme des objets un peu étranges, mais qui finalement vont inspirer les plus grands comme Picasso. Et puis, évidemment, le XXe siècle, c'est le siècle du déracinement, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, le plus souvent, les artistes vont en parler de façon métaphorique. Enfin, l'expo nous emmène jusqu'à aujourd'hui.
Ah, c'est un long voyage. Hein.
C'est un long voyage. Ouais. Ça commence au 16e, il fallait bien que je prenne un peu de temps. Et là, le voyage a pris des bouleversements très différents, puisque la civilisation migre dans l'autre sens. On quitte le sud pour aller vers le nord, on cherche la fortune. Et puis, on a inventé le voyage d'affaires et le voyage tourisme. Donc, comment les artistes contemporains se sont emparés de tout ça? Eh bien, à ça et à bien plus encore, répond cette exposition Voyage au MUCEM en ce moment. Ouais, il y a une centaine d'œuvres, des photographies, des installations, des toiles. Et puis, aller à Marseille, ça permet aussi d'entendre les petits.
Le MUCEM, c'est sur le port. Hein, on
oui, on les entend pas très bien, mais on peut se balader après.
Ils sont en maillot de bain.
C'est jusqu'au 4 mai. Voilà. Et samedi prochain,
il y a des mouettes.
Voilà, il y a des mouettes.
Il y a des œuvres consacrées à votre Paris-Grèce.
Il y a
votre Paris-Athènes.
Il y a des
œuvres consacrées à votre Paris-Athènes.
Pas encore, Catherine, mais je vais y penser. Non, en revanche, je voulais vous signaler que samedi prochain, là, ils font toute une journée de visite guidée de l'expo. Ouais. Et donc, c'est intéressant d'être emmené par un commissaire pour comprendre mieux.
Alors là, je pourrais vous dire merci, au revoir, mais non, j'ai envie de vous faire un petit cadeau quand même.
Voyage. On ne peut pas parler de culture
merci
tranquillement.
Merci à Grégory Caradoni, réalisateur qui a vite retrouvé Voyage dans ses archives et dans ses vieux 33.